Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h, Pierre de Villeneuve.
Bonjour à tous, bienvenue dans Les grandes voix. Bonjour Catherine Ney, Michel Cotta, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou.
Bonjour Pierre.
Bonjour.
Et au programme de cette émission, comment sortir de la crise politique, crise sociale, crise économique, crise diplomatique, avec en premier lieu toujours le bras de fer sur les retraites qui cristallise toutes les critiques. Trois quarts des Français toujours opposés, un président déterminé qui attend désormais la fumée blanche du Conseil constitutionnel. À tout cela s'ajoute une communication qui part dans tous les sens. Quelle sortie possible? Avec quelle garantie d'avoir une paix sociale dans le pays? Premier sujet de discussion. En attendant, quelle est donc cette violence qui s'installe en France? Les forces de l'ordre, une nouvelle fois accusées de violence après les manifestations de Paris et de Sainte-Soline. Après la commissaire européenne aux droits de l'homme, voici l'ONU et la Maison-Blanche qui dénoncent également l'excès de force auprès des manifestants. Des associations qui accusent les gendarmes d'avoir entravé le passage du SAMU le week-end dernier dans les Deux-Sèvres. Violence des actes, violence des mots, quelle méthode pour stopper tout cela? Et comment stopper également l'appel à la désobéissance qui conduit fatalement aux violences? Deuxième sujet de discussion. Et l'immigration, l'INSEE a publié hier son panorama pour les immigrés et descendants d'immigrés en France. Un Français sur trois aurait désormais un lien avec l'immigration. Chiffre intéressant alors qu'un débat sous haute tension arrive autour de la loi immigration de Gérald Darmanin et Olivier Dussopt. On en parle en fin d'émission. Vous avez le programme Les Grandes Voix, c'est parti. Lundi, le président a donc convoqué Elisabeth Borne, les principaux acteurs de la majorité, pour faire un point sur sa situation. Résultat, une rencontre à Matignon entre la Première ministre et les partenaires sociaux mercredi prochain, mais sans remettre en cause la question du départ à 64 ans. Question simple, à quoi va servir cette réunion?
Ben évidemment, à pas grand-chose, probablement. Alors, bon, j'allais dire évidemment à rien. Bon, je retire ça parce que j'en sais rien moi-même, à vrai dire, nous n'en savons rien. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un gros piège. C'est un gros piège pour l'intersyndicale parce que en acceptant quand même l'idée d'aller dialoguer à Matignon, après avoir demandé en vain un dialogue avec le président de la République qui n'a pas eu lieu puisque le président n'avait pas voulu. Bon, ils y vont tous et avec un casting un peu différent puisque la moustache est remplacée par une avenante jeune femme de 41 ans qui est devenue la patronne avenante de la CGT, un peu de manière inopinée. Je ne sais pas si on en reparlera. Mais donc qu'est-ce qui peut se passer? Deux choses. Ou bien ça dure trois heures. Il y a un dialogue, on dit oui, elle nous a dit des choses, etc. Et on a l'impression que quelque part, ceux qui ont dialogué ont renoncé à leur mouvement, ou vont y renoncer, c'est le piège pour eux. Ou alors, justement, ils essayent d'en profiter, et je m'arrête là. Et s'ils en profitent, ça veut dire qu'au bout d'une demi-heure, ils sortent tous en ordre sur le perron et ils disent, nous avons essayé de parler de l'essentiel, ce que les Français attendent, etc., c'est-à-dire la réforme des retraites, et nous n'avons eu aucune réponse de Madame la Première Ministre, donc nous partons. Et dans ce cas-là, ça remet du carburant pour la manif du lendemain.
Oui, moi je crois que cette réunion va surtout donner l'occasion à Madame Binet de faire son premier One Woman Show.
Madame Binet qui est donc la nouvelle secrétaire générale de la CGT.
Pour démontrer qu'elle est déterminée, elle va un peu ôter la vedette à Laurent Berger, qui est maintenant celui qui a mené la danse depuis le début et qui est encensé par la presse, par tout le monde, qui est le grand homme de voilà. Elle arrive, c'est une femme qui croit qu'on peut reculer parce qu'elle était à l'UNEF au moment du CPE, elle était à Nantes et elle avait beaucoup manifesté contre cette loi qui a été effectivement votée, promulguée, mais assortie d'une nouvelle loi qui vidait son sens la première et qui n'a pas été adoptée. C'était un tour de passe-passe comme en avait fait Mitterrand au moment de l'école libre. Bon, donc elle croit que si on est... Et alors elle annonce 3 millions dans les rues jeudi, c'est-à-dire qu'elle est encore en plus superlative que Mélenchon, elle va jouer un rôle. C'est-à-dire que je pense que l'intérêt de ce jour, c'est qu'on va arriver une nouvelle vedette qui, sous des côtés avenants, comme le dit Gérard, va être une très dure. Voilà, beaucoup plus dure que le moustachu. Elle va être une sorte de Olivier Matteux, vous savez, celui qui est à
Marseille, qui était pressenti.
Il a été balayé assez rapidement.
Oui, mais enfin, Matteux qui ne veut pas dire qu'il était bon en maths, mais enfin, on en avait peur.
Merci, Catherine.
Mais enfin, il était proche de Mélenchon, puisqu'il avait dans son bureau une
Che Guevara
et Chavez. Voilà, les deux idoles de Mélenchon. Là, je crois que ça va être l'intérêt de voir cette femme, de la voir sur la scène.
Sur le grill.
Mais elle a annoncé ce qu'elle allait dire. La fin de son discours, quand elle a été élue, a été très claire. Elle a dit à toute l'Assemblée, ce sera, on arrête cette réforme, on remet tout à plat, et il n'est pas question de, des 64 ans.
Elle a dit, moi je vais mercredi à Matignon pour retirer la réforme.
Voilà.
Sinon j'y vais pas.
Voilà.
Alors, non, mais ce qui est intéressant dans le cas de cette fille, c'est qu'elle doit être d'autant plus dure aujourd'hui qu'elle l'a moins été dans le passé, puisqu'elle était à la tête des cadres. Et à la tête des cadres, elle s'est vue reprocher, son côté CFDT, si j'ose dire, ou son côté plus souple. Bon. Donc au fond, maintenant qu'elle est élue, elle est presque obligée de donner des gages sur un problème de ce genre. Et les gens qui donnent des gages vont toujours peut-être un peu plus loin qu'ils ne veulent, qu'ils ne le voudraient et qu'on les attend. Donc, la personnalité de cette nouvelle dirigeante, entre nous, hein, je trouve ça formidable que la CGT enfin est une femme à sa tête.
C'est ce qu'a dit Mme Borne. C'est ce qu'a dit Mme Borne, le fait qu'elle a salué le fait que ce soit une femme.
Oui, mais elle ne sera pas plus gentille avec elle pour ça.
Non, mais la CFDT en avait déjà. Non, mais ce que ça veut dire quand même, ça veut dire que la CGT, vous savez que les syndicats, généralement, au début de la création des syndicats, les syndicats étaient contre les femmes et contre le travail des femmes. Et on s'aperçoit finalement qu'il leur a fallu longtemps pour arriver à
la CFDT.
C'est la première fois en 128 ans que c'est une femme qui est à la tête de la CGT. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura une fissure au sein de l'intersyndicale ou est-ce que ça veut dire qu'ils vont marcher ensemble? Personne ne le sait pour l'instant.
Les risques de fissure sont moins grands. À mon avis, avec cette nouvelle patronne de la CGT, il y a moins de risques qu'on pouvait le prévoir si, comme vous dites, entre guillemets, le moustachu des 13 dernières années était resté en place. Donc je pense que non, l'intersyndicale va tenir. Elle va tenir le coup sur une ligne qui va être une ligne. Attendez, vous ne voulez pas en parler. Dans ce cas-là, on n'a plus rien à se dire. Madame la Première ministre, je vous salue.
Et hop. Mais d'autant qu'elle a autour d'elle une dream team, quand vous la voyez composée, ce sont les secrétaires généraux des fédérations chimie, énergie, qui sont extrêmement durs. Ce sont eux qui voulaient bloquer l'économie française. S'il faut la bloquer, la réponse est oui, avait dit notamment Ménestriel, qui fait partie de l'exécutif, tous ces secrétaires généraux-là. Donc je pense que c'est manifestement une femme intelligente, cultivée, licenciée en philosophie, donc raisonneuse, et qui tiendra le manche d'une main très ferme.
Non, si on y regarde bien, il y a une opacité formidable dans la direction des syndicats, et notamment de la CGT, et l'opacité qui rappelle un peu celle qui était autour du Parti communiste, parce qu'au bout du compte, est-ce que vous saviez vraiment, vous, que le moustachu, comme on dit, était à ce point désavoué, par ses ouailles, par son conseil.
Par sa base,
est-ce que vous avez vu à quel point, quand même...
Est-ce qu'on le trouvait trop mou?
Oui.
Alors qu'il faisait peur à tout le monde sur les plateaux, c'est ça.
Non, mais c'est intéressant de voir quel point... C'est quand même un domaine dans lequel on ne connaît pas tout, on ne sait pas tout. Quand on voit maintenant ce...
Il n'avait pas été désiré au départ, c'était un second choix, parce que son prédécesseur s'était fait sortir parce qu'il avait piqué dans la caisse.
Non,
il avait fait des... Il y a eu une histoire d'appartement.
Quand on le voit maintenant, Martinez, hors de fonction, finalement plus petit qu'on croyait.
Non, mais tu t'attendrais ou quoi?
Plus fatigué qu'on croyait, remplacé par une femme. C'est quand même... Non, j'appelle ça une opacité complète sur les gens.
Sa moustache.
Mais l'opacité, c'est les restes du système communiste.
C'est le Politburo.
C'était l'international communiste et Moscou qui décidait qui allait patronner la CGT. Évidemment, il reste quelque chose de ça dans la fax. On ne peut pas dire que ça soit la démocratie. C'est une démocratie, mais comme un peu plus à la chinoise qu'à l'anglaise. Quoi.
Sophie Binet, qui avait une tribune à l'Humanité régulièrement.
10h15, première pause dans les grandes voies. Et dans un instant, on observe et on analyse l'attitude du président de la République face à tout ça. A tout de suite.
Pensez à covoiturer.
Europe 1, Pierre de Villeneuve.
Les grandes voix sur Europe 1 avec Gérard Carrérou, Charles Villeneuve, Catherine et Michel Cotta. Emmanuel Macron, pendant ce temps, a repris ses distances avec le dossier des retraites. Il s'est consacré cette semaine à la présentation d'un grand plan sur l'eau depuis les rives du lac artificiel de Serre-Ponçon dans les Hautes-Alpes. La semaine prochaine, il sera en visite en Chine et la semaine d'après, il sera en visite aux Pays-Bas. Que pensait de son attitude, Michel Cotta?
Je pense que c'est une attitude... un peu difficile de prendre, de croire qu'on peut prendre, qu'il peut prendre du recul par rapport aux retraites. Les gens ne pensent qu'à ça. C'est au fond la conversation de tout le monde, l'interrogation de tout le monde, la peur de beaucoup de gens, quand est-ce que ça s'arrête et évidemment, c'est très difficile pour lui d'engager un autre sujet, de s'engager dans un autre sujet. Par exemple, on l'a regardé dans l'eau. C'est très difficile parce que quand il parle de l'eau, j'ai vu les mesures. C'est intéressant. On doit effectivement faire attention à l'eau, etc. Mais on se dit, bon, d'accord, mais pourquoi c'est lui qui en parle maintenant ?
Oui, parce que son ministre en parle très bien, là,
Monsieur Béchu.
Oui, même chose. Très, très bien. Plutôt mieux que lui.
Il faut qu'il se déplace en France. Est-ce qu'il peut vraiment aujourd'hui se déplacer ? Je ne suis pas sûr. Et d'ailleurs, l'image du président de la République un peu isolé, avec évidemment les maires et les élus locaux, et de l'autre côté des manifestants, n'est pas une formidable image. C'est-à-dire que
il y en avait très peu de manifestants, il y en avait 150. Alors,
mais enfin, n'empêche qu'ils n'étaient pas là, ils étaient loin. On a l'impression quand même que c'est très difficile pour Macron aujourd'hui d'aller au contact des Français en ce moment, maintenant, et que ce soit en Chine ou ailleurs, ça ne changera rien.
Gérard Carrero.
Oui, moi je suis d'accord avec ce que vient de dire Michel. J'ai trouvé, et je pense que beaucoup de gens ont vu les images à la télévision, dans ce décor très beau d'ailleurs de Serre-Ponçon et du lac de Serre-Ponçon, où il était venu pour parler de l'eau, qui est un vrai problème d'ailleurs, un grave problème pour notre pays et pour d'autres pays. Il était pathétique. Il était pathétique parce qu'on avait l'impression que ce qui... D'ailleurs, regardez les reprises dans la presse de son discours sur un sujet, je viens de le dire, mais très important.
Oui.
Zéro, quoi. Enfin, très peu, quoi. Des petites choses. Le minimum vital pour les reprises. Et il était là, pathétique, parce qu'il était seul, avec une quinzaine de dirigeants locaux qui faisaient un peu... C'était sa foule, là. Et puis, il y avait des grands espaces... Et puis au loin, on apercevait à la fois les policiers et puis on apercevait les deux, je ne sais pas combien, mais peut-être 100 manifestants. Mais ce n'était pas ça, c'était le vide. Ça avait ce côté, effectivement, quelqu'un, je ne sais plus qui l'a rappelé, peut-être même sur Europe, je crois, peut-être même dans votre émission, parce que ça m'a frappé. Il a rappelé effectivement cette image du village Potemkin. Catherine II de Russie, quand elle va, on lui préparait le truc, on voyait le village, alors que derrière, c'était un décor. Bon. Et c'était un peu ça. Et ça me fait penser à cette réflexion, toujours sur Europe d'ailleurs, du politologue...
C'est Stéphane Elbouy du JDD qui disait ça.
Mais voilà, ouais. Mais je pense aussi au politologue Jean Garrigue, qui a dit, lui, l'historien, et qui intervient souvent sur Europe, la légitimité que revendique le président Macron est perçue comme une coquille vide par l'opinion. Ça m'a frappé. Ouais. Parce que j'ai trouvé que c'était très juste. J'ai trouvé que c'était très juste. que les gens, quelque part, personne ne dit qu'il n'est pas président. Il a été réélu à 58%.
Mais c'est comme si ça comptait pas.
Mais c'est comme si c'était passé. Ouais. C'était déjà, hop, on est un an après. C'est une coquille vide. Alors... Et si c'est vraiment une coquille vide, c'est gravissime pour quelqu'un qui a encore 4 ans à gouverner la France.
C'est un problème de légitimité. Il se pose pour tout le monde et pour toutes les institutions. On en parlera peut-être. Mais il se parle pour toutes les institutions. Oui. Au fond, on assiste aujourd'hui à une démolition... systématique de toutes les institutions. On assiste à celle du Parlement qui se ridiculise. On commence à assister, et on va peut-être reconnaître plus un Conseil constitutionnel, finalement, à quoi ça sert. Bon, alors vous allez voir, suivant les résultats, s'il servira, s'il trahit pour... Bon, on assiste quand même à un formidable... plus de légitimité.
Ça s'appelle une révolution rampante.
Charles Villeneuve.
Une révolution rampante.
Encore faut-il que des gens les fassent.
Mes camarades, finalement, les dommages sont faits. Et il n'a aucun intérêt, le président de la République, à accepter de savoir reculer pour mieux redémarrer. C'est l'hypothèse de travail, d'ailleurs, d'un des meilleurs spécialistes du social en France, Pierre Ferracci. Mm. Bon, moi, je crois qu'il n'a aucun intérêt à accepter une pause ou une médiation et se remettre dans un bourbier qui va durer 6 à 12 mois. Les dégâts politiques et sociaux sont faits, ne s'effaceront pas. Les syndicats seront de toute façon au vent debout. La cote de popularité du président sera en berne, c'est évident. Le gouvernement sera assiégé, affaibli, bunkérisé, tout ce que vous voulez. Mais il reste les bénéfices économiques et quand même financiers de la réforme et la posture du chef d'État qui a réussi à faire cette réforme par rapport même au marché financier compte tenu de la dette abyssale, 3 000 milliards de dollars de la
dette,
France.
De dette de France.
De dette, oui.
D'euros.
Et non, accepter non. La médiation pour lui, c'est capituler.
Non, mais de toute façon, tout est suspendu aujourd'hui au Conseil constitutionnel.
Exactement.
Qui va dire si oui ou non.
14 avril,
qui va dire si oui ou non le fameux article 4, c'est-à-dire les 64 ans, est appliqué. Bon, mais ce qui va être intéressant, est-ce que le Conseil constitutionnel va accepter en même temps la mise en lancement du référendum populaire, le fameux RIC, ce qui veut dire, si c'est oui, qu'au moment où il dit oui à 64 ans, c'est la contestation qui va continuer. Parce que tous les gens qui veulent ce référendum et qui sont nombreux vont essayer de trouver les 5 millions de gens qui peuvent signer et peut-être qu'ils pourraient le trouver. Après quoi, il va falloir attendre 9 mois. Après quoi, il va attendre peut-être que les deux assemblées décident si on fait une nouvelle loi. Mais tout ça, ça entretient comme ça un climat de contestation et un tapis de braise qui va être toujours là.
Oui, mais
s'il dit oui à ces deux choses,
mais Catherine,
vous voyez, c'est complètement...
Tu exclus une censure totale du Conseil constitutionnel.
Ah ben, moi, j'exclus rien du tout.
Non,
parce
mais ils peuvent parfaitement. Ils ont les moyens.
Il y a un aspect de dimension inconstitutionnelle.
Mais là, je crois que le Conseil constitutionnel fera à la fois œuvre, enfin, une décision juridique, mais en arrière-plan, ce sera vraiment une décision politique.
Oui, sur ce plan-là, la décision la plus importante, et je suis d'accord avec Catherine, la décision la plus importante, c'est pas la loi, parce que, à mon avis, la loi, pour le Conseil constitutionnel, c'est très difficile de la retoquer antérieurement.
Elle peut dire que le véhicule choisi...
Mais l'acceptation du référendum, c'est un an de bombe.
C'est une bombe prête à exploser pendant un an.
Et c'est
10h25, on se retrouve dans un instant, on reparle du Conseil constitutionnel et puis aussi d'une crise de communication qui arrive. A tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1.
Pierre de Villeneuve.
Avant de retrouver Michel Cotta, Catherine Ney, Gérard Carrero et Charles Villeneuve, je tiens à vous signaler que le samedi et le dimanche à 12h30, vous retrouvez Lénaïque Monnier qui vous informe sur Europe 1. Lénaïque qui reçoit aujourd'hui dans Europe Midi le sociologue et historien Laurent Fragerman qui vous parlera de la mobilisation des jeunes et des syndicats. On en était sur le constitutionnel, Charles Villeneuve, avec une décision qui va être prise. Il y a évidemment une décision entièrement juridique et il y a un process aussi de cette loi qui va être analysée.
Mais non, mais il peut y avoir une censure totale. Est-ce qu'elle est possible? Elle n'est pas certaine, mais elle n'est pas impossible. Et ça, il faut l'évoquer. Et les arguments existent essentiellement sur le détournement de procédure. C'est-à-dire le recours à l'article 47.1, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, où on a logé cette réforme, dans ce projet de budget qui ne concerne que l'année en cours. Et ça, c'est inconstitutionnel. En tout cas, ça peut être l'occasion pour le Conseil constitutionnel de censurer complètement la réforme. Auquel cas, on remettrait tout, évidemment, sur la... Mais il y a aussi une autre procédure qui peut être enclenchée sur certains points où on peut supprimer ou modifier ces points-là. Sur le plan, notamment, par exemple, de l'index des seniors. Ça peut être modifié. Ça peut être ça. Et puis,
évidemment... Donc, censure totale ou partielle.
Bon, il est...
Et ensuite, sur le référendum, comment ça se passe, alors?
Eh bien, sur le référendum, Catherine l'a très bien expliqué. Il faut simplement, pour introduire le RIC, 4 700 000 citoyens
oui,
qui signent cette demande.
Oui, moi, j'avais arrondi à 5 millions.
Oui, c'est parce que c'est 10% du corps électoral des inscrits. Et les inscrits, c'est 47 millions d'inscrits pour voter.
Ça a l'air pharaonique comme chiffre, mais c'est faisable parce qu'on avait réuni, je crois, plus d'un million pour la privatisation des aéroports.
Alors, je crois qu'ils sont un peu séparés les sujets et
Michel
que c'est Alain Juppé qui se penche plutôt sur le référendum, tandis que tout le reste du Conseil, alors il existera aussi sur la décision, sur la loi, mais il est surtout affecté, si j'ose dire, au référendum.
Alors le Conseil constitutionnel, et d'ailleurs ça a été expliqué aussi très bien sur Europe, contrairement à ce que beaucoup de Français croient, c'est pas la Cour suprême américaine, c'est pas véritablement une instance de recours absolu. C'est quand même un organisme, les neuf qui en font partie, dont celui qu'on connaît bien, qui est Alain Juppé, en l'occurrence.
Le président
Fabius, Alain Juppé, deux figures qui ont dominé, on peut dire, la vie politique depuis 30 ans. Donc, déjà, c'est une instance qui a un caractère politique fort. Et là, effectivement, ils vont faire donc de la... C'est du blabla que de dire qu'ils ne font pas de politique. Ils feront de la politique comme ils l'ont fait au moment de valider les comptes électoraux avec Roland Dumas, etc. Il y a des tas d'exemples. Ce qu'ils vont peut-être faire, moi j'en sais rien, mais ce qu'ils vont peut-être faire, c'est valider, malgré les obstacles un petit peu sur l'utilisation du 49 trucs et du 47 trucs, ils peuvent dire, bon, mais malgré ça, la loi est adoptée, donc il la valide, à éventuellement un petit truc près, il la valide. Mais dans la revanche, quelque part, de ce en même temps, c'est il la valide, mais il balance le RIC. C'est-à-dire, ils disent, on autorise le RIC. Voilà. C'est-à-dire que c'est le cadeau empoisonné. Ça donne l'impression à Macron, je vous donne la victoire, vous avez gagné sur la réforme des retraites.
Qui sera dupe.
L'opinion va se dire il y a encore un truc, ça donne un an de souffle et d'espoir à ceux qui sont aujourd'hui dans la rue.
Cet article, ce fameux article 47.1, a donc été utilisé pour la première fois à la demande d'Alain Juppé. Et contre lui, qu'est-ce qui, à ce moment-là, à l'Assemblée nationale, s'est élevé ? Laurent Fabius. C'est-à-dire que sur cet article 47.1, on doit pouvoir trouver de quoi un contentieux absolument énorme entre les deux. Et donc, ça prouve quand même qu'ils savent ce que c'est. Ils savent à quoi servent ces articles. Et ils sont très experts, quand même, en matière. Ils sont politiques, sûrement, mais aussi des experts.
Catherine, à cela s'ajoute une crise de communication assez étonnante. Moi, je trouve
que oui, parce que, écoutez, bon, par exemple, sur le vote de la loi, jusqu'à une heure avant la loi, il était entendu qu'on n'utiliserait pas le 49.3. Bon. Et après, Madame Borne l'applique pour dire après, mais je ne l'appliquerai plus. C'est-à-dire qu'elle donne raison, comme si elle avait fait une grosse faute, un gros péché, comme si la Constitution, c'était quelque chose, comme si ce n'était pas dans la Constitution. Donc elle délégitime la Constitution, ce que reproche d'ailleurs Macron à Mélenchon. Bon, alors il y a eu ça qui était quand même très bizarre. Le président qui a parlé à 13h, dont on a écouté, on n'a rien retenu. De ce qu'il a dit à 13h, ce n'était pas un truc solennel, bon, c'est comme ça. Mais on se dit quand même, il y a la contestation, il donne une interview à Pif Gadget, d'ailleurs où on lui dit, des jeunes qui lui disent « Donnez-nous des conseils si on veut devenir président ». Il dit « Mais la meilleure manière d'y arriver, c'est de se faire sa propre idée des choses et de ne pas dépendre des partis des uns et des autres ». Donc ça veut dire que, voilà, il ne faut pas écouter les autres, il faut se faire sa propre idée. Donc c'est bizarre. C'est le moment que choisit une ministre quand même de poser dans Playboy, bon, elle ne sera pas comme autrefois nue, mais enfin, elle a une robe blanche.
Marlène Schiappa.
Madame Schiappa.
Bon, mais
il faut dire aussi que c'est une femme en ce moment qui est amoureuse. Elle a raconté son coup de foudre à Manhattan, qui est sur le marché du désir et qui va parler du féminisme.
C'est du film,
voyez. Long,
ça.
Donc, comment c'est quand même bon.
Manhattan,
on se dit, bon,
c'est bon, les trois chambres
extraordinaire.
À Manhattan.
Bon, et puis, il y a monsieur Dussopt qui fait son outing dans Tétu, qui dit qu'il est homo et que il est pour la GPA, mais d'abord on s'en moque, on le savait, enfin peu importe. Mais tout ça, vous dites, où est-ce qu'on est là? On se dit, tiens, c'est un film pour Almodovar, vous voyez, c'est des choses totalement farfelues, vous voyez,
oui, le gouvernement, comme le roi d'autrefois, le roi est nu. Et effectivement, on voit apparaître tous ces éléments. Alors malheureusement, ça ressemble un peu... Il ne faut pas rire du tout, parce que ça ressemble à une...
Mais je vous on tient plus, Charles.
Ça ressemble à une comédie, par moments, peut-être comédie de boulevard.
Je trouve que ce serait une comédie, peut-être, à la rigueur, s'il n'y avait pas... un entourage de violence absolument extraordinaire.
Mais justement,
marquer une pause et on parle de la violence juste après. À tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h.
Pierre de Villeneuve.
Retour des grandes voix avec Michel Cotta, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou avec ces violences, violences à l'égard des forces de l'ordre, violences également à Sainte-Soline le week-end dernier. La violence extrême de l'ultra-gauche, voilà ce que dénonce le gouvernement et notamment cette sortie de Gérald Darmanin dans un tweet et est mardi à l'Assemblée nationale avec cette anaphore. Que s'est-il passé à gauche pour qu'on confonde casseurs et policiers? Que s'est-il passé à gauche pour qu'on ne respecte plus l'uniforme de la République? Que s'est-il passé à gauche pour qu'on oublie Clémenceau, Mitterrand, Chevènement, Jox, Cazeneuve ou Valls? Charles Villeneuve, cette violence, elle ne s'arrête pas. Et d'ailleurs, une forme d'inertie, on s'habitue à la violence en France. C'est ça
qui
est terrible.
Écoutez, faut-il rappeler que c'est l'État qui a conduit, c'est la violence qui a conduit l'État à renoncer à la taxe carbone, à distribuer des milliards durant la crise des Gilets jaunes? C'est la violence du saccage de l'Arc de Triomphe, rappelons-nous, le 25 mars 2021. Et cette violence, elle a depuis infusé. Les affrontements entre les forces de l'ordre et les opposants au projet de méga-bassin à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres sont approuvés par un Français sur cinq. Sondage Harris Active pour Public Sénat. C'est-à-dire qu'une routine est en train de s'installer entre, d'un côté, les manifestants et les forces de l'ordre, entre les politiques à l'Assemblée nationale comme la France insoumise qui joue du conflit permanent et, de l'autre, le président qui n'est pas dans la recherche d'un compromis. Et on joue avec le feu. Parce que cette violence devient une routine.
Oui, cette violence, moi je pense aujourd'hui qu'il s'agit d'une véritable tentative insurrectionnelle. Ça a commencé effectivement par une insurrection qui paraissait douce, si j'ose dire. Douce, c'est-à-dire parlementaire, c'est-à-dire des excès parlementaires invraisemblables, inacceptables. Mmh. Mais au fond, bon, ils chantaient, ils balançaient des pancartes. À la limite, c'était quelque chose qui préparait le terrain, mais dans le même temps.
Ils ont importé la technique de la ZAD.
Oui, oui. Non, mais c'est ce qu'on appelle.
Dans l'hémicycle. Oui, c'est ce qu'avait dit Marine Tondelier.
Bien sûr. Oui. C'est ce qu'on appelait autrefois, en 68, l'agite propre. Mm. L'agite propre. L'agite propre à l'Assemblée. Mais ce qui est plus grave, c'est que ça se double d'une... Il y a deux éléments dans l'agite propre déclenchés par, effectivement, Mélenchon et ses...
Mais qui joue un rôle essentiel, Mélenchon, oui, dans la création, dans la volonté de faire du chaos.
Les deux choses,
hein.
C'est effectivement la ZAD parlementaire.
Et on l'invite partout. Hein.
Mais c'est l'insurrection, aujourd'hui, sur le terrain. Mmh. Moi, je suis... Attends, Michel, tu me regardes en disant que j'exagère. Je suis convaincu... Je suis convaincu, et c'est pas ma conviction, elle n'a pas d'importance ma conviction, c'est celle des officiers de gendarmerie sur le terrain, ah ouais, quand ils racontent qu'ils n'ont jamais vu des violences atteindre ce niveau. Oui. Moi je dis, et je prends mes responsabilités, il y a des gens qui ont conçu l'idée qu'il faudra un mort, il faut faire un mort sur le terrain, comme il y avait eu... Dans des précédentes rébellions, il y a quelques années,
le barrage de Sivens,
le mort à Sivens, oui, a permis un certain nombre de choses.
Eh oui,
dans cette stratégie,
on joue avec
ces gens jouent avec le feu.
C'était le gouvernement Hollande et Ségolène Royal était ministre de l'Environnement.
Oui, mais ils ont cherché, ils ont, au fond aujourd'hui, et qu'est-ce qui se passe en révolution, si j'ose dire, en révolution contre cette révolution rampante,
oui.
On voit... que la gauche n'existe plus. La gauche qui a élu des présidents de la République, la gauche de Mitterrand, comme l'a dit d'ailleurs Darmanin, à juste titre, où est passée cette gauche? La gauche a été phagocytée complètement par Mélenchon, et sur le plan parlementaire, et sur le plan de la rue. Car dans la rue, le concept de violence légitime, qui est un concept républicain qu'il faut absolument mettre en avant, il est considéré comme par une partie de l'opinion, comme n'étant plus valable.
Et Michel, ça, c'est grave. Alors, Michel Cotta.
Non, c'est sur le mot insurrection que j'ai tiqué. Je suis absolument d'accord avec pour regretter cette violence, parce qu'on parle de violence, mais enfin, moi, j'ai vu une autre violence. Quelle était cette députée de la République en marche dont le bébé a été...
Aurore
Berger. Dont le bébé a été quand même... On a fermé la maison avec un
non,
bébé de 4 mois
Berger,
dedans.
C'est une autre.
Si vous, oui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte.
C'est elle.
Donc, il y a une violence, ça, c'est sûr. Mais la France, c'est un pays violent. Hein. Quand on parle de la Commune de Paris ou qu'on parle de Thermidor, la France est un pays violent. Bon, et d'un seul coup, ça explose. Je ne suis pas sûre.
On a trouvé, comme disait Sarkozy, on a coupé la tête du roi et de la reine.
Je trouve pour parler d'une insurrection, il faut une organisation. C'est en ça que j'ai mis un recul par rapport à l'insurrection. Nous sommes sûrement dans un climat très, très difficile et presque insurrectionnel. Mais l'insurrection, ça se... il faut une équipe, il faut une volonté. Et il faut une unité, il faut quand même...
Mais l'équipe dirigeante de l'insurrection, si on peut mettre ce mot entre guillemets, c'est effectivement l'état-major de la NUPES qui a phagocyté à travers son groupe parlementaire le plus important dans l'opposition, 150 députés, et qui aujourd'hui n'a plus d'opposition interne. Où est la gauche qui dirait...
Vous avez vu quand même que la Maison-Blanche... Oui. L'ONU disent attention, comme semaine dernière, le Conseil de l'Europe.
Oui, mais ça, c'est les idiots utiles de Mélenchon.
Non,
ça va jusqu'à.
Est-ce que je peux parler ? Non, mais là, non. C'est les images.
Catherine.
Parce que quand il y a des manifs comme ça, qu'est-ce qu'on montre au monde entier ? Eh bien, trois feux de poubelle, c'est Paris qui brûle. Quand il y a des manifs, vous savez.
Trois, quand même.
Il y a 900 feux,
voilà, il y avait le feu, quoi. D'autre part, quand on voit bien les photographes, quand ils sont dans les manifs, qu'est-ce qu'ils recherchent ? C'est comme s'ils étaient de leur garde du Vietnam. Ils cherchent le moment où un flic va tabasser et ils le font, quelquefois, ça ils le font. Donc, ils montrent ça. Et
puis,
quand même,
ça en 68,
et puis, quand
vrai,
même, il y a une autre image, moi qui m'a choquée, vous voyez, c'est sur Soline, là, de voir arriver des policiers sur des quads. Mmh. Moi, on aurait dit Patton en Libye, vous voyez, et je me suis dit pour faire la guerre. Non. Je trouvais que c'était.
Patton se véhiculait avec des 50 tonnes.
Oui, bon, mais d'accord.
Je trouvais que c'était... Un quad, ça passe, et Renault Trafic, ça patine. Donc, il fallait prendre des quads.
Surtout, ce qui est formidable, puisque l'histoire des bassines, qui est quand même...
dont on s'aperçoit maintenant que ça s'évapore avec la chaleur.
Rocambolesque montre quand même qu'il y a des armes de guerre, qu'il y a des armes de guerre qui sont utilisées par ceux qui attaquent, que ceux qui attaquent
viennent de l'Europe
entière. Et qu'il y a donc une vraie internationale ou européanisation, des Black Blocs. C'est ça, au fond, qui fait peur. Mais pardonnez-moi, moi, quand j'entends l'Amérique reprocher les violences policières en France, franchement, je trouve que c'est vraiment l'hôpital qui se met de la
Non, mais je voudrais faire deux remarques. La première, c'est ce qui a éclairé et attiré l'attention du monde international, de la Maison Blanche, des fédérations des droits de l'homme, etc. C'est le report du voyage de Charles III, le roi d'Angleterre. C'est cette lumière internationale qui a éclairé les événements de Paris. Et puis, deuxième chose, je voudrais rapporter une phrase de Mélenchon dans la revue des Deux Mondes en 2022, c'est donc assez récent. « Je suis en désaccord absolu avec la violence dite révolutionnaire parce qu'elle rabougrit le processus révolutionnaire. » Alors on se demande qui croire, finalement. C'est une phrase de Mélenchon.
Oui, mais enfin, il dit tout et n'importe quoi.
Une pause et on parle de l'immigration. À tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1.
Pierre de Villeneuve.
Dernière partie des grandes voix avec l'INSEE qui a publié hier son dernier panorama pour les immigrés et descendants d'immigrés en France. Il en ressort que la population française compte 10% d'immigrés en 2021, soit 7 millions d'immigrés recensés et que 1 Français sur 3 a désormais un lien avec l'immigration. Gérard Carrérou.
Oui, moi cet article du Figaro, puisque c'est là, je vous renvoie à cet article qui reprend une partie, mais ceux qui vont aller la chercher sur Internet pourront trouver tous les détails, l'enquête de l'INSEE. Il aura fallu attendre 10 ans de mensonges éhontés de la part des ministres et du gouvernement sur ce qu'est la réalité chiffrée, tout ce que je dis là est vérifiable, chiffrée de l'immigration en France. On nous a expliqué que ça ne bougeait pas, qu'il n'y avait pas plus d'immigration aujourd'hui que dans les années 20 ou les années 30. Mensonge absolu. Complicité d'ailleurs d'un certain nombre de géographes qui ont des noms que je ne citerai pas par égard pour eux, mais qui ont cautionné ces mensonges. Pourquoi les mensonges ? Parce qu'en France, seuls peut-être des pays modernes, de démocratie moderne, on n'accepte pas ce que les anglo-saxons acceptent depuis 20 ans ou 30 ans. Les statistiques ethniques qui permettent, on aurait pu, chaque année, on pourrait savoir Il faut une mesure. Quand il y a un phénomène qui ne marche pas,
pourquoi
la première chose, c'est d'avoir une mesure.
Pourquoi
on n'accepte pas parce qu'on savait que cette immigration s'accroît de manière exponentielle et qu'on n'ose pas afficher les chiffres devant les Français. Là, pour une fois, on affiche les chiffres. Vous en avez dit un ou deux, je ne veux pas rajouter. Plus de 10%, la fameuse barre dont Mitterrand disait si on franchit la barre de 10% d'une population allogée, ça devient grave. On est à 10,3 d'après l'INSEE. 20% à Paris, 33% en Seine-Saint-Denis. Bon, le flux, c'est ça qui compte maintenant. Parce que la population immigrée, les 19 millions qui, peu ou prou, sont liés à l'immigration, elle est là. Il va falloir la traiter, essayer de l'intégrer, essayer de l'assimiler pour une partie. Mais ce qui compte aujourd'hui, on peut pas revenir là-dessus, ce qui compte aujourd'hui, ce sont les flux. C'est-à-dire ceux qui arrivent chaque année au rythme de 500 000 ou 600 000 par an. Vous avez qu'à prolonger les courbes de l'INSEE aujourd'hui et vous verrez que si on est au tiers...
C'est le grand remplacement.
Mais oui, malheureusement, l'expression à l'époque a fait un peu scandale. Mais c'est effectivement une forme de grand remplacement. Si on ne met pas fin aux flux, flux tels qu'ils sont, et Stefanini l'explique très bien, monsieur Stefanini qui a été...
Je trouve qu'à partir du moment où un tiers des Français ont quelque chose à voir avec l'immigration, soit qu'ils soient immigrés eux-mêmes, soit qu'ils ont un grand-père immigré, puisque c'est sur trois générations maintenant que ça se passe, c'est vrai que ça pose l'immigration d'une façon beaucoup plus difficile à régler qu'on ne pense, parce que je ne suis pas sûr que dans les 30%, les 30% qui sont déjà en France ont envie de voir arriver des cohortes. Ça, non, je pense le contraire. Je pense quand même que effectivement, un tiers de la population concernée par ça, avec beaucoup de jeunes, puisque c'est les jeunes qui sont en France, ça change la condamnation globale qu'on peut avoir sur les politiques précédentes. En tout cas, les flux, comme vous savez, ils sont justifiés à la fois parce que l'Angleterre refuse et renvoie sur nous les gens qui voudraient aller en Angleterre, et que l'Italie envoie sur le reste de la France tous ceux qui ne veulent pas
les
garder.
Les flux africains, ils ne vont pas en Angleterre.
Charles
très peu.
Oui, non. Ce qui est très difficile, et c'est un sujet avec lequel... avec Catherine Ney, on en parle souvent, notamment par rapport à une décision qui date de 1976. C'est que nous avons, changé de nature de l'immigration elle-même. On est passé d'une immigration de travail à une immigration de peuplement. Et c'est le regroupement familial dans les années 76, début 80, qui fait que se sont installées en France des familles entières d'immigrés, nord-africaines et africaines, avec une concentration géographique autour des grandes villes. Et avec une particularité, une démographie double et même triple de la plupart des familles d'origine française.
Vous avez vu que le rassemblement familial est en train de décroître.
Et vous avez vu que l'émission était finie? On s'en parle la semaine prochaine. Merci les grandes voix. Dans un instant, Laurent Mariotte. Et tout de suite, c'est Christophe Willem. Ça s'appelle « Je tomberai pas ». Je t'oublierai pas, c'était Christophe Willem. Bonjour Laurent Mariotte.
Bonjour Pierre et bonjour les grandes voix.
Bonjour.
J'ai cuisiné les poissons d'avril, figurez-vous. Lesquels choisir? Eh bien, on va tout vous dire. Et vous, le féru d'automobile, vous allez entendre qu'il n'y a pas que le turbo dans la vie. Et puis, une grande voix de la chanson française nous rejoint avant midi. Pierre Perret sera des nôtres. À tout de suite.
À tout de suite.